Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans cette émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire évidemment sur la page Facebook de VOA Afrique. On attend également vos appels en direct. Vous composez le 001 202 205 26 33. C'est le Sporama du 16 octobre 2017. Un Sporama un petit peu spécial puisqu'on va écouter dans quelques instants une interview exclusive que nous a accordée la secrétaire générale de la Fédération internationale de football, Madame Fatma Samoura, la Sénégalaise, qui, vous le savez, avait été nommée en 2016. Elle revient évidemment sur les transformations au sein de la Fédération internationale de football, qui, vous le savez, a été secouée par des scandales. Elle revient également sur l'organisation du prochain grand rendez-vous du foot mondial. Ce sera bien évidemment la Coupe du Monde 2018 en Russie. On va écouter cet entretien que nous a accordé la semaine dernière Fatma Samoura. On revient en direct dans les studios de Washington. Juste après, on écoute cette interview. Madame Samoura, bonjour.
Bonjour Nicolas, ça va ?
Ben, ça va, et vous-même ? Pour commencer, évidemment, revenir sur cette Coupe du Monde des moins de 17 ans qui s'est ouverte. C'est une fraîcheur pour la FIFA, ce genre d'événement, les moins de 17 ans ?
Ben, toutes les compétitions, c'est une fraîcheur pour la FIFA. Mais c'est vrai qu'avoir une compétition en Inde, le deuxième pays le plus peuplé au monde, et qui est une nation surtout de cricket, c'est quelque chose que nous... attendions avec beaucoup d'impatience. Personnellement, j'ai été séduit par le niveau d'engouement vis-à-vis d'un sport qui devient de plus en plus populaire, et les stades étaient suffisamment bien, remplis. Je pense que le premier jour, on avait fait plus de 40 000 spectateurs, et nous savons que pour Calcutta, qui est vraiment la ville du foot, on aura un stade plein à la finale. Bon, c'est dommage que l'équipe hôte n'ait pas pu avoir la victoire contre les États-Unis. Et le niveau de jeu était excellent. Ils ont fait preuve de beaucoup de compétences et également une bonne vigueur technique. Mais c'est ça aussi le football. C'est pas tous les jours qu'on gagne. Et sinon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les Indiens veulent recevoir une plus grande compétition.
L'Inde, la Chine, ces pays milliardaires en termes de population, c'est aussi des nouveaux marchés, des nouveaux joueurs possibles, un marché à conquérir pour la FIFA.
Mais comme tous les pays, notre mandat est de développer le jeu partout dans le monde. Et nous avons des objectifs très ambitieux, notamment pour le football féminin. Et je pense que si nous arrivons à attirer un nombre intéressant de joueurs dans ces deux pays, nous pourrons également avoir toutes les chances d'atteindre notre objectif, surtout pour le football féminin, d'être à 60 millions de filles licenciées qui jouent au football d'ici 2026.
Le prochain grand rendez-vous pour la FIFA, c'est la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu en Russie. Le pays est-il prêt ?
Mais au vu de la Coupe des Confédérations qui s'est déroulée au mois de juin, nous avons toutes les raisons de penser que la Russie sera prête et qu'elle offrira une fantastique Coupe du Monde l'année prochaine. Lorsque la Coupe des Confédérations s'est déroulée, on a vu un engouement de la part des spectateurs, pas de reproches au niveau des médias. Les équipes étaient formidablement bien reçues, une équipe de volontaires extrêmement variée, divers, mais surtout très compétents, très accueillants, avec beaucoup de bonnes notes de la part des équipes qui ont visité. Maintenant, l'accent est mis sur les huit terrains et stades qui ne sont pas encore inaugurés, et on s'apprête pour l'instant, après avoir fait la dernière visite des sites, à voir les prochains matchs de test se dérouler au printemps prochain. Et je suis sûr que les fans sont aussi impatients que nous d'aller en Russie. Moi, personnellement, j'ai été fasciné par l'accueil et l'engouement et surtout l'engagement des autorités au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la réception des fans du monde entier.
Et Colin Smith, hein, qui dirige évidemment les compétitions et les événements chez vous à la FIFA, était sur place. Il dit que l'état général est prêt, mais il dit qu'il y a encore un travail significatif dans les 2-3 prochains mois à faire. Où ce travail doit-il être fait pour l'organisation russe ?
Mais disons, au niveau des infrastructures, il y a quand même des stades qui sont toujours en construction. Et il y a également des hôtels qui ne sont pas totalement réceptionnés, mais ce n'est pas une nouveauté. Quand les Coupes du Monde se passent jusqu'au dernier jour, il y a des coups de peinture, il y a des fixings à faire par-ci, par-là, mais au vu de ce qu'on a expérimenté pendant la Coupe des Confédérations, on n'a aucune raison de s'inquiéter. On a reçu encore le 26 septembre dernier des garanties de la plus haute autorité du pays que tout sera fin prêt pour mai, et on verra à l'issue des matchs tests du mois de mai et du mois d'avril, si nous avons des raisons d'être inquiets. Mais pour l'instant, franchement, l'inquiétude est au niveau zéro.
Après 2018, il y aura bien évidemment 2022. Le Qatar, le pays, là aussi, est-il dans les temps?
On est encore à quelques années. Hein, les préparatifs avancent très bien. La désignation du Qatar, comme le fait, est faite en 2010. Donc, ils auront eu presque 12 ans pour pouvoir se préparer. Le stade Al-Khalifa a déjà été inauguré l'année dernière et les travaux avancent sur les autres stades et les infrastructures. Comme vous le savez, c'est une compétition compacte où les fans auront la possibilité de voir plusieurs matchs par jour parce que il y a un rayon maximum de 60 km entre les stades. Et nous avons également des questions concernant la crise diplomatique et on a vu tout récemment que les choses avancent bien avec une médiation de plusieurs États. On est quand même à 5 ans de cette compétition et nous n'avons aucune raison de croire que la situation géopolitique aujourd'hui va perdurer jusqu'à ce moment-là. Et nous suivons quand même de très près la situation, notamment avec le comité local d'organisation.
Alors pour 2026, le président de la FIFA, Gianni Infantino, disait dans le magazine de la FIFA, il parlait d'un processus d'attribution pour 2026 qui serait plus transparent. De quoi s'agit-il?
Mais disons, il y a certaines mesures qui ont été recommandées dans le cadre du rapport fait par John Ruggie en matière surtout de droits humains, en matière de transparence et de meilleure gouvernance du football. Donc, on a fait une vaste consultation avec le Human Rights Advisory Board en matière de soutenabilité, en matière d'accès, mais également en matière d'enregistrement des pays qui veulent recevoir cette Coupe du Monde. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont des recommandations de ce rapport qui sont prises en compte et des consultations également qui ont été faites avec les confédérations, mais également les professionnels du football, pour pouvoir essayer de voir dans quelle mesure on peut alléger le fardeau sur les pays hôtes et en essayant d'avoir un héritage beaucoup plus durable et qui bénéficie aux générations à venir. Et tous ces aspects maintenant de durabilité, d'héritage, sont des aspects qui ont été clairement reflétés dans le nouveau cahier des charges.
États-Unis, Canada, Mexique contre le Maroc. Est-ce que évidemment il y a un favori qui se dégage?
Ben ça, ce serait quand même, pour ma part, quelque chose sur lequel on ne peut pas se prononcer. On aura les résultats au mois de juin. Et les meilleurs dossiers aura définitivement les voix du Congrès.
Alors il y a un an, lors de notre précédent entretien, vous aviez déclaré qu'il fallait une gestion transparente des ressources, des hommes et des infrastructures à la FIFA. Plus d'un an après, est-ce que vous avez réussi votre pari?
Mais disons que c'est un travail quand même qui ne se fait pas en une année. Moi, je suis en place depuis un peu moins d'un an et demi, 16 mois exactement. Ce que je peux vous dire au niveau de la diversité, c'est quelque chose, déjà c'est un pari qu'on a remporté. Au niveau des confédérations, il y a minimum une femme qui est représentée. Donc nous sommes 7 femmes au niveau du conseil de la FIFA, alors qu'il n'y en avait qu'une seule avant mon arrivée. Au niveau de la FIFA elle-même, nous avons mis en place un programme de leadership qui également fait la promotion des candidatures féminines. Aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'au niveau, des statistiques, il y a 42% de femmes au niveau des femmes. Et quand on va au niveau des postes de responsabilité, on est passé de 10% à plus de 29%. Mais on continue encore à travailler pour avoir au moins une parité entre les hommes et les femmes d'ici 2026. Mais le plus important pour nous, c'est de voir qu'il y a un peu plus de gouvernance. Maintenant, on a un officier chargé de tout ce qui est conformité, compliance, et 8 personnes qui s'occupent du monitoring et du suivi des fonds que nous allouons aux 216 associations membres et à nos 6 confédérations, puisque nous avons quand même multiplié par plus de 3,5 les ressources que nous leur allouons. Nous avons élargi de manière exponentielle le nombre de revues annuelles des financements de ces fédérations et confédérations. On est passé d'une quarantaine de pays qui étaient soumis à un audit à 76 et nous pouvons passer à 100 pays, donc un suivi beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus strict. Mais également au niveau de nos contacts avec les associations membres, on a mis en place ces sommets mondiaux, il y en a 11, qui nous permettent d'échanger sur le développement du football, mais surtout de faire la promotion du football pour les jeunes et pour les filles. Et donc, ça, ce sont des paris que nous avons relevés avec brio. Il reste encore à travailler sur les réformes, notamment au niveau des révisions des statuts pour les associations membres, pour qu'ils alignent le statut au niveau avec ceux de la FIFA. Et nous avons déjà plus de 50 pays qui ont déjà adopté des statuts qui sont totalement conformes aux réformes, mais nous continuons le travail. Et enfin, nous essayons de mettre en place également des structures de conformité au niveau de chacune des confédérations, avec une participation accrue des confédérations, et s'il n'y arrive pas, la FIFA prendra le relais. Mais ça, c'est un chantier qu'on va attaquer pour le prochain cycle 2019-2022.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la santé financière de la FIFA?
Notre situation financière est super solide. Nous avons pu confirmer nos objectifs financiers pour le cycle quadriennal et nous ajustons et nous travaillons sur des cycles de 4 ans et avec un résultat net de plus de 100 millions attendu à la fin du cycle, donc l'année prochaine. Seulement sur la question concernant le déficit, les 3 premières années, nous finançons des compétitions, des opérations, et nous ne considérons dans le cadre du nouveau système AFRS qui ne reconnaît la génération des ressources et des revenus qu'une fois que le coût d'envoi, parce qu'ils sont tous liés à la Coupe du Monde, et sont déjà, donc le coût d'envoi est donné, c'est en ce moment que nous reconnaissons ces revenus-là. Et donc c'est juste un nouveau système comptable et financier beaucoup plus fiable, beaucoup plus cohérent, qui reflète la réalité que nous avons adoptée, qui fait que nous ne déclarons des bénéfices que lorsque la Coupe du Monde a déjà eu lieu et on n'a aucune inquiétude. Nous avons des réserves obligatoires de plus d'un milliard de francs suisses et ces réserves, on peut toujours les utiliser à tout moment, mais pour l'instant, ce déficit n'est qu'un déficit d'exercice et de clôture, mais pas un déficit au niveau de la santé financière de l'institution.
Et la manne financière de cette Coupe du Monde 2018, vous l'estimez à combien, la FIFA?
Ben, c'est déjà prématuré, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de la Coupe du Monde 2018, on aura un résultat net positif d'au moins 100 millions de dollars.
Alors à Bahreïn, le président Infantino a affirmé que la crise de la corruption à la FIFA était terminée, qu'elle ne se reproduirait plus jamais. Est-ce que vous avez l'impression qu'après ces 16 mois de mandat, vous avez réussi à inverser la courbe? Est-ce qu'on peut croire justement que la transparence est désormais de mise à la FIFA?
Oui, le président Infantino a parfaitement raison lorsqu'il dit que la crise est terminée. Les personnes qui avaient commis des fautes, aussi bien au niveau des confédérations que des associations membres, ont fait l'objet d'inculpations. Et c'est maintenant une nouvelle direction qui a été mise en place. Mais au-delà de ces personnes, le plus important pour nous, c'est la mise en place de ces réformes pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, en renforçant notre système de contrôle et de monitorage, mais en étant beaucoup plus proche de nos associations membres et de nos confédérations pour les conseiller afin que leur gestion soit plus transparente et plus conforme aux nouvelles réformes.
Vous parlez de gestion transparente, mais beaucoup se sont inquiétés, par exemple, de l'éviction de Cornel Borbély, le chef de la chambre d'investigation de la commission d'éthique, ou encore de Hans-Joachim Ecker, patron de la chambre de jugement de la commission d'éthique. Pourquoi, finalement, changer les têtes?
Mais disons, de nombreux membres de nos commissions ont terminé leur mandat au mois de mai. Et théoriquement, il aurait fallu qu'ils déposent officiellement leur démission. Certains ont vu leur mandat être renouvelé par le Congrès. Et d'autres ont vu, d'autres commissions ont vu de nouveaux membres. Et ça, c'était juste dans un souci également d'une plus grande représentativité géographique, d'une bonne parité entre les hommes et les femmes, d'une représentation de toutes les confédérations. Aujourd'hui, à la tête de la Chambre, vous avez quand même l'ancien président de la Cour de justice et on ne peut pas, je pense, mettre en question ses compétences.
Que pensez-vous du témoignage devant une commission britannique de M. Maduro qui, là encore, met à mal notamment cette volonté affichée de transparence à la FIFA?
Mais on a répondu au moment où ça a été dit. On n'est pas censé partager son point de vue. Et je crois qu'on a fait une démarche auprès des médias en disant que nous avons entièrement confiance aux nouveaux membres de cette commission.
Alors, qu'en est-il de la décision de la FIFA d'installer un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT au Cameroun?
Mais disons, cette décision est liée à la confirmation par le TAS du jugement du comité olympique et sportif du Cameroun qui avait annulé la procédure électorale qui avait vu l'élection du comité exécutif de 2015. Et avant d'installer un comité de normalisation, la FIFA a tenté à Conakry de rapprocher les différentes parties prenantes en les invitant à une réunion ad hoc, mais sans grand résultat. Et donc, puisque le comité qui était en place n'était pas formellement élu et n'était pas reconnu par les instances du football, il a fallu mettre un comité de normalisation avec un mandat très court de 6 mois qui devrait réviser les textes, mais aussi organiser les élections d'ici la fin du mois de février 2018.
Et pour la FEMAFOOT, au Mali, vous êtes satisfaite de l'élection de Mamoutou Touré?
Pour l'instant, nous attendons officiellement les communications de la FEMAFOOT avant de pouvoir se prononcer.
Alors, autre dossier brûlant sur le foot africain, ce fameux match Afrique du Sud-Sénégal du 10 novembre que la FIFA a décidé de faire rejouer. Le Burkina a déposé un recours devant le TAS. Pourquoi faire rejouer ce match finalement?
Mais disons que la procédure est devant le TAS et pour l'instant, je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet.
Alors, un mot, quelles sont vos relations, la nature de vos relations avec le nouveau président de la CAF, M. Ahmad, qui a été élu, comme on sait, en mars dernier?
Mais les relations sont professionnelles. On s'est connus à Madagascar lorsqu'il était ministre et moi j'étais en charge des Nations Unies. C'est un monsieur courtois et nos relations sont très cordiales et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup.
Le foot africain, le développement, c'est aussi un de vos chantiers à la FIFA?
C'est pas seulement pour le football africain. Moi, je suis à la tête d'une instance internationale. Je suis pour le développement du football partout où ce sport se joue. Et là où il ne se joue pas, essayer de faire en sorte de susciter un intérêt.
Alors, vos détracteurs vous présentent souvent comme un faire-valoir sans expérience dans le football. Que leur répondez-vous et surtout, quelle action concrète avez-vous prise qui illustrerait le contraire?
Moi, je ne suis le faire-valoir de personne. J'ai été recruté, j'espère, selon des critères qui sont propres au président, mais qui également incluent le fait que je suis une femme compétente et qui gère une administration qui n'est pas différente d'administrer des crises dans le système des Nations Unies. L'objectif était clair, il fallait à ce poste quelqu'un qui ne fasse pas partie du famille du football et qui ait une expérience en matière de réforme et de gouvernance, qui pourrait apporter la diversité, la transparence et mettre l'aspect humain au centre de toutes les décisions de la FIFA, et c'est ce que je fais au jour le jour.
Dernière question pour vous, finalement, vous avez parlé au tout début du football féminin, c'est l'une de vos priorités au cours de votre mandat à la FIFA. Où en est ce chantier du développement du football féminin?
Nous avons aussi un projet de participation qui fait le focus sur la croissance de la participation à tous les niveaux. Donc nous voulons développer aussi bien le football des jeunes que le football des jeunes filles, le football des femmes, aider les académies aussi à soit augmenter le nombre de jeunes qui les fréquentent ou en créer là où ça n'existe pas. Nous avons surtout ce programme phare Forward qui multiplie par près de 3,5 les ressources allouées aux associations membres et qui nous permettent d'investir presque 4 milliards de dollars d'ici le prochain cycle. Nous avons le programme de leadership féminin dont la deuxième cohorte est sortie cette année et qui permet surtout aux femmes travaillant dans l'administration de les équiper d'outils pour pouvoir performer au mieux leurs tâches et avoir une possibilité de monter au niveau de la hiérarchie footballistique. Nous avons également créé une division du football féminin qui est dirigée par une dame qui était là aussi pendant les réformes et qui connaît très bien la nouvelle voie tracée par l'instance dirigeante du football et qui est quelque chose quand même de très novateur par rapport à ce qui existait avant. Nous avons surtout une stratégie pour les 10 prochaines années, ce qui n'avait jamais existé auparavant, et qui nous trace une feuille de route qu'on essaie de suivre et qui permet aujourd'hui de dire que notre réputation, je pense, est meilleure qu'il y a quelques mois et que le football, on en parle plus souvent que des scandales. Et enfin, que la promotion de la diversité est une réalité, puisque je suis également une illustration de cette diversité-là.
Voilà pour cette interview avec Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, une femme compétente qui parle beaucoup de diversité, qui parle beaucoup de parité. Yacouba Ouédraogo avec nous dans ce studio, bonsoir. Est-ce qu'elle vous a convaincu?
Convaincu, à l'entendre, oui, mais écoutez, on s'est pose toujours des questions. Il y a toujours ce qu'elle dit et puis il y a ce qu'il faut lire entre les lignes. Quand elle parle, par exemple, de gouvernance et que bon, qu'on parle désormais plus de football que de scandale, rien que la semaine dernière encore, il y a eu ce scandale sur l'attribution du Mondial 2022, notamment les droits télé avec cette question de Bein Media. Et donc, moi, je me dirais que, en fait, je me dis simplement que ça ne va pas s'arrêter maintenant, à moins qu'on ne fouille tous ces dossiers de ces vieux dossiers de la FIFA, notamment l'attribution des Mondiaux 2018, en fait 2022, et bientôt ce sera 2026, du Mondial 2022, bien sûr. Elle dit que 2026, ce sera beaucoup plus transparent. On l'espère bien, et on espère aussi que l'après ou encore pendant que Infantino et Fatma Samoura sont à FIFA, on n'entendra plus parler de scandale financier.
Alors on va poser la question également à notre ami Élisée Oumpatine qui est avec nous depuis Boïcon. Élisée Oumpatine, votre réaction sur cette interview de Fatma Samoura?
Oui, bonsoir Nicolas. Il faut dire qu'elle a essayé de se défendre un tout petit peu aussi. Mettre bien sûr le projet en jeu, puisque sur ce point, il ne faut pas oublier, Yacouba l'a dit, surtout par rapport à l'attribution de la Coupe du Monde 2022 et 2026. Mais moi-même, je dirais que même pour l'attribution de la Coupe du Monde 2018, il y a un petit problème. Maintenant, est-ce que la Russie sera prête hein, pour pouvoir organiser cette compétition? C'est vrai que Vladimir Poutine l'a dit, il a rassuré. Maintenant, sur le terrain, on verra si les Russes pourront bien sûr bien organiser cette compétition maintenant. Concernant la FIFA, c'est une grande organisation, il y a tellement de gens hein, qui sont salariés, donc est-ce que la corruption sera suspendue un jour? On attend de voir.
Merci beaucoup Élisée, on va poser la question cette fois-ci à Thierry Kamboundi qui nous a rejoint, notre station partenaire Top Congo à Kinshasa. Bonsoir Thierry, votre impression sur ces mots de Fatma Samoura?
Bonsoir Nicolas, merci, hein. Félicitations surtout, belle interview, je l'ai senti convaincante, même si, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a encore à prouver sur le terrain, mais elle est sûre de son fait, elle est sûre, elle est dans son élément justement en train de parler, hein. On se rappelle de l'émission réalisée lorsqu'elle a été justement désignée secrétaire générale de la FIFA, ce n'était pas évident, là c'est quelqu'un qui a dégagé une certaine assurance dans le parler, on attend voir justement, il faut lui accorder beaucoup plus de temps et lui et son comité pour voir justement si tout ce qu'il a dit, notamment au sujet de la corruption, va se réaliser dans le temps.
Merci beaucoup. Allez, on va retrouver Amine Birouk hein, qui est avec nous depuis le Maroc. Amine, l'information du week-end. Au-delà de cette interview, c'est bien évidemment l'attribution au Maroc du championnat d'Afrique des nations de football décidé lors d'une réunion à Lagos. C'était attendu, hein, évidemment. Quelle est la réaction du côté des Marocains, Amine?
Du côté des Marocains, beaucoup de sérénité dans la mesure où ils s'attendent à répondre à un énorme défi, non seulement organiser le CHAN, mais en assurer la popularité dans la mesure où on sait souvent que le pays organisateur va bénéficier de l'afflux du public pour assister à ces matchs, mais qu'en sera-t-il des autres rencontres et sur les autres sites? Donc c'est le véritable challenge auquel sera confrontée la Fédération marocaine de football. Le savoir-faire existe, il y a quand même eu deux Coupes du Monde des clubs qui ont été organisées au Maroc. Les installations, les infrastructures sont en place, les terrains d'entraînement également. Donc il va falloir voir dans quelle mesure on sera prêt dans trois mois à accueillir les supporters des sélections africaines et surtout dans quelle mesure le public marocain, souvent chaleureux lorsqu'il doit soutenir son équipe, pourra s'intéresser à d'autres matchs et à d'autres rencontres.
Et Amine, est-ce que c'est pas aussi, c'est ce que je vous disais en antenne, une consolante en vue d'une possible Coupe du Monde 2026 qui lui passerait sous le nez au profit du Canada, du Mexique et des États-Unis, et c'est Cannes qui pour le moment tienne 2019, 2021 et 2023, possible opportunité en 2025. Est-ce que c'est pas aussi une façon de consoler le Maroc?
En attendant, on verra ce qui se passera par rapport au Cameroun. Est-ce que le Cameroun sera prêt? On sait que Ahmed Ahmed s'est réuni avec la commission d'organisation de la CAN, qu'elle a pour objectif d'accompagner le Cameroun. Et il faudra répondre au cahier de charges qui a été modifié lors du symposium du football africain à Rabat. Il faudra aussi voir dans quelle mesure la nouvelle réforme de la FIFA ne va pas avantager les petits pays, puisque maintenant, ce n'est plus le comité exécutif de la FIFA qui désigne le pays organisateur de la Coupe du Monde, mais bien l'Assemblée générale. Donc, ce sera une question de géopolitique. Il faudra compter ses amis, voir dans quelle mesure le Maroc pourra réaliser ce véritable challenge, sachant qu'il affronte un mastodonte qui est les États-Unis, en plus de l'appui du Canada et du Mexique.
Et oui, et puis les droits télé surtout, les surpuissants Fox, Sport et Univision évidemment pour cette Coupe du Monde 2026. En tout cas, on le répète, hein, évidemment, la Coupe du Monde 2010 c'était en Afrique du Sud, donc légitimement 16 ans plus tard, il faudrait que ça revienne à l'Afrique. Mais évidemment, hein, dans ce sport business, hein, l'argent est roi et les intérêts sont parfois différents. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle une émission un petit peu spéciale hein, concernant l'interview de Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de football. On va remercier évidemment Yacouba Ouedraogo, Amine Birouk. On va également remercier Élisée Oumpatine, Thierry Kamboundi. Il n'a pas eu la chance d'être avec nous, mais Andinsi était également en ligne. On va remercier Fred Nerkayemit et Joselle Morissin pour la mise en onde de cette émission. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Et cette interview de Fatma Samoura, vous la retrouvez sur notre site internet www.voaafrique.com.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.